voix nue. Toute cette semaine, Philippe Bresson rencontre Fanny Ardant. Ce soir, la femme d'à côté.
Vous faites votre première apparition à l'écran en 1978 dans le téléfilm Le Mutant de Bernard Toublon-Michel, qui vous a d'abord repéré alors que vous jouiez dans la pièce de Monterlan, Le Maître de Santiago. Il recherchait, dit-il, une comédienne un peu anglo-saxonne, une héroïne hitchcockienne, froide et belle comme Ingrid Bergman. Un an plus tard, Nina Companese vous offre le premier rôle féminin dans la série Les Dames de la Côte, saga historique diffusée en 5 épisodes sur la deuxième chaîne et qui rencontre un immense succès. Et c'est là, devant son écran de télévision, que François Truffaut vous découvre pour la première fois. Avouant lui-même avoir eu un coup de foudre télévisuel, il vous écrit pour vous proposer un rendez-vous. Il s'apprête alors à tourner Le Dernier Métro et vous promet « Le film suivant sera pour vous, Fanny Ardant. » Bonsoir.
Bonsoir.
Avant de consacrer l'essentiel de cette troisième partie à François Truffaut et au film que vous avez tourné ensemble, j'aimerais que nous évoquions votre collaboration avec Nina Companese. C'est vrai que c'est à elle que revient le mérite, d'abord, de vous avoir choisi pour un premier rôle, alors que vous n'étiez pas encore identifiée en tant que comédienne, à l'écran.
Elle ne m'avait jamais vu jouer. Elle avait entendu parler de moi par un de ses amis qui s'appelait Patrice Alexandre. Et on s'est rencontrés un après-midi au Fouquet's, je me souviens. Et on a parlé. Elle m'a beaucoup plu. Parce qu'elle était romanesque. Elle parlait des familles, des maisons, des amours. Et puis, un jour, elle a téléphoné à sa productrice en disant « Aujourd'hui, j'ai dédié ma journée pour donner à chaque personnage un nom. Raoul, Marcel. Et moi, j'ai envie que l'héroïne s'appelle Fanny. » Et la productrice, qui était Mac Bodard, a dit « Mais vous m'avez pas dit que vous aviez rencontré une fille qui s'appelait Fanny quelque chose ?» Alors c'était comme un signe des dieux. Et on s'est revus. Et c'est vrai que c'est à elle que revient tout le mérite, parce qu'elle m'a engagée sans m'avoir jamais vue jouer, ni au théâtre, ni quoi que ce soit.
Dans Les Dames de la Côte, vous jouez aux côtés d'Edwige Feuillère, ouais. Françoise Fabian, Denise Cray et d'autres grandes figures féminines. Quel effet cela vous faisait-il de vous retrouver à leur côté?
Alors, je n'ai pas pensé à ça, mais j'ai pensé, comme j'étais très solitaire à Paris, je rentrais dans une famille. Il y avait ceux qui m'intimidaient, ceux qui je ne savais pas quoi leur dire, mais ça a été ce moment où... Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'on plonge dans la mer sans penser? Et dans ce film, j'ai plongé avec que des gens qui m'exaltaient. Parce que je me souviens que déjà, je ne voulais pas me lever tôt et qu'on tournait un peu à l'extérieur de Paris. Je dormais à l'hôtel et le soir, Edwige Feuillère, qui était fatiguée, avait aussi décidé de dormir sur place. Et donc tous les soirs, je dînais avec elle. Et elle me racontait Cocteau, Claudel. Je me rappelle de Francis Huster.
Et Bruno de Volder.
Oui. Qui faisait mon mari, que j'ai tellement torturé, le pauvre.
Ténébreux, très
oui,
beau.
Très beau.
Très belle voix.
Très. Quelque chose d'intense.
Oui. On oublie parfois que Nina Companese fut aussi une immense scénariste, notamment pour Michel Deville,
oui.
Mais aussi Jean-Paul Rapneau,
oui.
Le hussard sur le toit.
Elle adorait l'écriture. Elle avait une passion pour Proust, justement, où elle a mis en scène La Recherche des Temps Perdus.
Et puis ce sont de très beaux portraits de femmes, des
oui.
Héroïnes qui parviennent à surmonter les épreuves et à affirmer leur désir d'émancipation, on peut dire. Ça doit
oui.
Vous plaire, ça.
Oui. Et en même temps, qu'elle ne se situe que par rapport à l'amour, finalement.
C'est ça.
Et au destin. C'est-à-dire que Fanny, dans Les Dames de la Côte, elle devient un écrivain, comme elle. Finalement, il y avait beaucoup de Nina dans Fanny,
Fanny
des Dames de la Côte.
Oui. Revenons à François Truffaut, si vous le voulez bien, Fanny Ardant. Truffaut qui vous découvre donc dans Les Dames de la Côte et qui manifeste le désir impérieux de vous rencontrer. Quel souvenir gardez-vous de cette première rencontre qu'on imagine bouleversante au sens où elle va bouleverser votre vie?
Ce qui bouleverse la vie, il n'y a jamais les trois coups comme au théâtre. Il y a quelque chose qui se fait. Et je me souviens que j'avais reçu une lettre où François disait « Viendriez-vous passer une demi-heure au film du Carrosse ?» Et donc, je sais que pendant cet entretien, je n'avais pas la notion de la demi-heure, mais j'avais la notion de ne pas rester trop longtemps. Parce que quelqu'un qui disait la demi-heure, c'était que son temps était compté. Et donc, je sais que je suis partie 20 minutes après. Parce que, vous savez, les gens dont on ne peut pas se débarrasser...
C'est vous qui avez mis fin à l'entretien.
Oui, parce que, mais je trouvais...
C'est pas une manière de contrôle aussi, ça ?
Un contrôle de ne pas être une casse-pied.
Peut-être pas, c'est peut-être autre chose.
Ça. Non, non, non. Non, non, loin de moi cette idée.
C'est vrai.
Et quelque chose comme... voilà, je pense que François Truffaut était quelqu'un de très timide, et moi aussi. Donc vous savez que A plus A égale A2. Eh bien, il y avait quelque chose de timide. Et je voyais, quand je sortais des films des carrosses, il y avait la file pour ceux qui faisaient la queue pour la figuration dans le dernier métro. Je trouvais ça exaltant. Je me souviens du bruit du parquet. Je me souviens des éclats de rire et des éclats de voix. Il y avait quelque chose où on faisait du cinéma, mais il y avait de la joie.
Est-ce que vous aviez formulé secrètement le rêve de tourner un jour avec lui avant de le rencontrer ?
Jamais.
Jamais ? Vous étiez spectatrice de ces films ?
Pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Je vous disais que j'avais une grande inculture théâtrale, mais j'avais aussi une grande inculture cinématographique, parce que il n'y avait pas de cinéma à Monaco. Il y avait une pauvre salle. J'ai commencé à aller au cinéma dans des films d'art et d'essai à Aix-en-Provence. Je me souviens d'avoir vu, au lieu d'aller dans les cours, un petit film que j'ai vu sans regarder le générique. Et je suis restée fulgurée de ce film.
C'était quoi ?
Alors attendez, je sors du cinéma et je dis, oh, j'ai vu un petit film extraordinaire. C'était quoi ? Ben, c'était un film en noir et blanc. Et ça parlait de quoi ? Et j'ai commencé à raconter. Et il y a un garçon qui a dit, mais tu te fiches de moi ? C'est la source de Bergman. C'était la source de Bergman. Vous vous souvenez de cet homme qui monte quand on a tué son enfant et qui arrache l'arbre au sommet de la colline ? Donc, vous voyez, j'avais des choses comme ça épars dans ma tête. Je ne savais pas vraiment ce que François avait tourné.
Truffaut, qui n'a pas manqué à sa promesse, lui qui, à l'époque du dernier métro, vous écrivez le film suivant sera pour vous. Vous serez en effet la femme d'à côté en 1981, une folle histoire d'amour, une histoire d'amour fou. Le personnage de Mathilde est-il un personnage qui vous ressemble, Fanny Ardant ? Y a-t-il identification entre elle et vous ?
Je me souviens que j'ai reçu... dans la boîte aux lettres, un synopsis de la femme d'à côté, qui avait 7 pages.
On entend aussi la sirène dans la femme d'à côté.
C'est la fin.
C'est la fin.
Et ces 7 pages racontaient cette histoire d'amour fou. Et je me souviens d'avoir, après avoir refermé les pages, de dire « Ah, je voudrais pas mourir sans avoir dit tout ça ». C'est exactement tout ce à quoi je croyais. Qui fait qu'une vie est riche, même si c'est la mort. Ce qui m'avait beaucoup plu surtout, c'était que ça se terminait par la mort. Que la mort purifiait tout. Qu'il n'y avait pas de résignation. Qu'il n'y avait pas... c'était juste un éclat de vie et puis tout rentrait dans les ornières. Donc bien sûr que j'avais lu... tous les livres, et les Anna Karenine, et les Emma Bovary, et tout. Donc, j'ai toujours aimé ces personnages qui perdaient leur vie pour l'amour.
La femme d'à côté est un film que François Truffaut a mûrement réfléchi, mais qui s'est tourné, je crois, dans l'urgence, en 6 semaines à peine. Quelle était l'ambiance sur le tournage de ce film tragique ?
C'était... à une ambiance très divertissante. On a beaucoup ri. Gérard, les 6 semaines, c'était entre 2 films, c'était sa seule liberté. Et on est allé le tourner du côté de Grenoble. Et je me souviens que même les scènes où on tournait et qui venaient me visiter dans ma chambre à l'hôpital où j'étais hospitalisée...
Enfin, votre personnage.
Oui, oui, dans une pièce qui était la moitié de celle-là. Il racontait ses histoires, on riait, il y a eu quelque chose de magique. Et que c'est vrai que souvent, la tragédie, les larmes, la dévastation du cœur et très proche du rire. Parce que tout d'un coup, le rire vous plonge immédiatement dans ce qu'on a perdu. Et que... Je sais que Gérard faisait beaucoup rire François. Que François adorait Gérard. Parce qu'ils se reconnaissaient entre eux comme deux voyous.
C'est sur ce film que vous avez rencontré Gérard Depardieu, qui est devenu votre complice et votre ami de toujours.
Je me souviens de lui. On a tourné dans le désordre, comme on tourne au cinéma. Et que une des premières scènes que j'ai tournées, c'est quand mon mari me dit « Tiens, je viens te présenter le voisin d'à côté. » Je me rappelle de la caméra qui était comme ça. Et il me serrait la main en me regardant. Et dès cette poignée de main, dès ce regard, j'ai su que jouer avec lui, ça allait être vivre. Comme vous savez, quelqu'un qui vous invite à danser. Vous allez danser, vous allez oublier le reste du monde. Et le lustre qui tournoie, et l'orchestre et tout, qui avait en lui ce regard et cette façon complètement carnale. Pas l'acteur qui peigne bien sa mèche et qui sait ses lignes et qui fait attention, j'ai besoin de concentration, tout ce que je déteste. Tandis que lui, voilà, c'était un appel, on s'en va.
Vous savez ce qu'il a dit à François Truffaut à propos de votre première rencontre dans le film, si je me souviens bien, c'est celle du supermarché. Il a dit, quand Fanny Ardant, Mathilde, m'a serré la main, j'ai su ce que nous allions faire, un film d'amour qui fera peur.
Ah, il a dit ça ?
Il a dit ça. Ça rejoint un peu ce que vous dites.
Ouais. Mais moi, je trouve que non, ça ne fait pas peur, mais ça revient à ce que nous disions sur ce que disait Duras.
Oui.
Et pourtant, il y avait cette phrase dans De Bernano, j'ai compris que la vie était un risque, mais que c'était un risque à courir. Ben, on pourrait dire, l'amour est un risque, mais c'est un risque qu'il faut absolument courir.
Puisque vous parlez de Bernano, est-ce que vous vous souvenez de ce que dit le curé d'Ambricourt dans le journal d'un curé de campagne, de Robert Bresson ? Il dit à la comtesse... L'enfer, madame, c'est de ne plus aimer.
Ouais.
C'est ça, non ?
Ouais, ouais.
Truffaut écrit dans Le plaisir des yeux, « Je n'aime pas que les acteurs arrivent sur le plateau en sachant leur dialogue par cœur. Je veux qu'ils l'apprennent dans la chaleur du moment. Je pense que lorsqu'on est fiévreux, au sens médical du terme, on est beaucoup plus vibrant. Et je veux que mes films donnent l'impression d'avoir été tournés avec 42 fièvres. Est-ce une habitude que vous avez gardée, Fanny Ardant, celle de ne pas apprendre les dialogues par cœur ? Avant d'arriver sur un tournage.
Non, moi je dirais... Moi je suis atteint d'un tourment, d'une angoisse. Donc moi je serais plutôt comme, vous savez, les guerriers qui ont bien tout préparé et qui disent maintenant le monde peut s'effondrer, la tour où il y a la caméra peut s'effondrer. Moi, je suis prête. Donc j'ai toujours pensé que plus j'étais prête, plus je ne serais pas là à me dire qu'est-ce que je dis après, plus l'émotion serait comme si c'était ce que j'avais toujours dit de toute ma vie. C'est le contraire, moi. Je pense que je me débarrasse du texte pour pouvoir être libre et pas dire « Oh là 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 ». Parce que de toute façon, je sais qu'au moment où on dit « silence, action », le sang fait des circonvolutions à 100 à l'heure et qu'on a déjà perdu 95% de sa lucidité.
La femme d'à côté, c'est une histoire d'amour très dramatique, tragique même. Et au moment où vous tourniez ce film, vous viviez avec François Truffaut une histoire d'amour très heureuse, n'est-ce pas ? Comment avez-vous vécu cette apparente contradiction, ce champ hors champ de la réalité et de la fiction, en quelque sorte ? Est-ce que cette histoire d'amour au présent a servi le film et votre jeu ?
Sûrement. Sûrement. Un peu comme quand la pluie arrive, on ne sait pas ce que ça va faire pousser. Je crois que j'ai jamais été aussi heureuse que pendant cette période. Mais en même temps, quand je la regarde avec le temps, est-ce que je l'ai vécu avec autant d'intensité ? Parce qu'il y avait quelque chose en moi qui savait que les grands, grands, grands moments de bonheur vont vous être tirés. Très jeune, je me souviens que j'étais hantée par l'idée du Nevermore. Oui, que je pouvais tout d'un coup me retourner sur un boulevard avec du soleil à travers des arbres. Comme ça, quelque chose de magique. Et je me disais, eh bien, ce moment-là, où tu regardes cet arbre avec le soleil à travers, tu le reverras plus jamais. Comme si très jeune, j'ai été prise par la mort, ce qui disparaît, le côté éphémère des choses. C'est peut-être aussi pour ça que je les ai toujours vécues. Avec exagération, avec intensité, comme si ma vie en dépendait, que c'était fatigant pour les autres. Mais que moi, que j'avais comme une sorte de prescience, que ce moment-là exactement, où tous les dieux me protégeaient, il ne durerait pas.
J'imagine, Fanny Ardant, que ce film, La femme d'à côté, particulièrement romanesque, renvoie la lectrice passionnée que vous êtes au grand roman d'amour de la littérature, ceux que vous dévoriez adolescente, dont nous parlions dans la première partie de cette émission. Et j'ai pensé notamment au Lys dans la vallée de Balzac. Je me dis que les mots que Madame de Mortsauf écrit à Félix de Vontenesse à la fin du roman, dans une lettre posthume, auraient pu être écrits ou prononcés par Mathilde, la femme d'à côté. J'aimerais que vous nous lisiez un extrait de cette lettre.
Félix, ami trop aimé, il y a d'excessives voluptés à se sentir brisé par celui qu'on aime. Si vous avez oublié ces terribles baisers, moi, je n'ai jamais pu les effacer de mon souvenir. J'en meurs. Oui, chaque fois que je vous ai vu depuis, vous en ranimiez l'empreinte. J'étais émue de la tête aux pieds par votre aspect, par le seul pressentiment de votre arrivée. Ni le temps, ni ma ferme volonté n'ont pu dompter cette impérieuse volupté. Ah, si dans ces moments où je redoublais de froideur, vous m'eussiez prise dans vos bras, je serais morte de bonheur. Je voyais dans la mort le seul dénouement possible de cette tragédie inconnue.
J'ai senti que ce texte vous touchait particulièrement, Fanny Ardant. Puis-je vous demander ce qui vous touche précisément dans ce texte ?
Non, je ne pourrais pas vous le dire.
François Truffaut était aussi un amoureux des mots, de la littérature. Est-ce que vous partagiez avec lui ce plaisir de la littérature ?
Oui. Il m'offrait beaucoup de livres. Je me souviens que j'aimais beaucoup La Duchesse de Langeais. J'ai même enregistré pour l'édition des femmes.
D'ailleurs, je crois que c'était une première, parce que les éditions des femmes Antoinette Fouque, en général, ce sont des auteurs féminins. Et vous avez rencontré Antoinette Fouque, et vous lui avez dit « Ok, mais ce sera la Duchesse de Langeais, n'est-ce pas ?» de Balzac.
Oui, je me rappelle que je lui avais dit « Oui, mais je voudrais faire un écart. Ce n'est pas une femme que je voudrais lire. » Parce qu'elle, elle faisait des romans lus par des femmes, écrits par des femmes. Et je me rappelle que j'adorais Antoinette. Et elle, je lui ai dit, c'est un livre écrit par un homme. Et elle m'a répondu, parce qu'elle avait l'accent du midi, « Oh, mais je ne suis pas sectaire. » Et alors j'avais dit, c'est la Duchesse de Langeais. Je me rappelle que c'est pour ça que j'ai tellement aimé faire cet exercice. J'étais enfermée dans une petite pièce avec une femme magnifique qui était l'ingénieur du son. Et que je l'avais lu d'une seule traite. Et que le soir, j'avais 49 fièvres. Mais que j'adorais ce roman. Bon, c'est vrai que, par exemple, quand on parlait de mon père était un Balzacien. Il avait tout lu. Je me rappelle que son roman préféré, il me disait toujours, c'est Le secret de la princesse de Cadignan. Et que je l'ai lu bien après sa mort. Et c'est là où j'ai touché du doigt en disant, oh, j'aurais tellement aimé parler avec lui de ce roman. Enfin, quand quelqu'un vous dit, lis ce livre. Peut-être vous aussi, vous avez sûrement beaucoup lu. Mais quand quelqu'un vous dit, t'as pas lu ça, il faut y aller. Parce que c'est vrai que quand on a lu beaucoup, on se dit, mais c'est quoi ce truc? Et puis, si quelqu'un vous dit l'urgence, surtout si c'est un ami ou quelqu'un que vous aimez, il faut le lire.
Mais vous croyez pas que par rapport à la littérature, il y a des moments où on est prêt à lire, à accepter, à découvrir quelque chose. Moi, ça n'a jamais marché, ça, avec moi. Quand on m'a dit, il faut que tu lises ça, c'est comme les films qu'on me dit, il y a l'injonction, il faut que tu ailles les voir. Je crois que je n'ai jamais vu Orange Mécanique à cause de ça.
Moi, j'ai jamais vu Les Nuits Fauves à cause de ça.
C'est peut-être moins grave.
Mais c'est vrai. Mais en même temps, maintenant, qui, dans ma prétention, je crois avoir tout lu, c'est quelqu'un me dit, quoi ? T'as pas lu ça ? Alors je me dis, donc, il y a encore des choses. Et en effet, il y a tellement de choses. Par exemple, j'ai jamais lu Don Quichotte. Mais que tout le monde, les gens qui me disent, t'as pas lu Don Quichotte, c'est les vrais lecteurs.
Vous disiez que votre père était un Balzacien. Dans Physiologie du mariage, paru en 1829, Balzac écrit, lire, c'est créer peut-être à deux. Est-ce que ça vous parle, ça, Fanny Ardant ? Cette idée de la participation active du lecteur ou du public. D'une certaine manière, je dirais que c'est valable aussi pour le cinéma. Un film projeté devant une salle vide n'existe pas.
Absolument.
N'a pas de sens.
Oui. Comme vous savez, cette fameuse phrase, est-ce que l'arbre qui tombe dans la forêt fait du bruit si vous n'êtes pas là ? Non. Et pourtant, il est tombé. Moi, je crois ça. Je crois aussi que j'ai découvert quelque chose, c'est pourquoi chez les Grecs anciens ou même dans le théâtre classique, on ne mourait jamais sur scène. C'est parce qu'on partait du principe que le spectateur, qui était les gentilshommes avec leur... serait intervenu pour défendre quelqu'un. Parce qu'ils sont partie prenante de ce qui se passe. Donc, si vous êtes avaché dans votre siège en regardant comme un bœuf quelqu'un qui se fait tuer, c'est que vous n'êtes plus un gentilhomme. Donc, on les faisait mourir dans la coulisse, où on racontait la mort, parce que là, c'était la fatalité, il était mort. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais oui, c'est parce que le public est une personne vivante qui collabore à la pièce, qui va finir la pièce, qui va finir l'œuvre.
Oui, c'est comme un... Il y a presque un effet kaléidoscopique à l'infini. Le sens est toujours recréé.
Complètement.
Il y a un auteur que vous aimez bien, je crois, Pierre-Jean Jouve, que vous avez incarné au cinéma.
Oui.
Le personnage de Catherine Crachat, dans le film de Pierre Beuchaud. Il dit, un personnage n'est jamais qu'un morceau intime de nous-mêmes, et toute œuvre, quelle qu'elle soit, est une confession qui subit une métamorphose.
Ah,
c'est ça.
Absolument.
Il l'a dit.
Ouais. Parce que quand vous écrivez un film, ce n'est pas que vous parlez de vous. Vous ne racontez pas votre vie, mais vous dites des choses. Codées. Qu'il faut décoder. Mais ce n'est pas parce qu'on n'écrit pas son histoire qu'on ne dit pas des choses de soi.
Truffaut a adapté de nombreux romans au cinéma, mais il n'a jamais porté à l'écran les grands classiques de la littérature française. Il était d'ailleurs très critique vis-à-vis de ce qu'il faisait. Je pense à Pierre Bost ou Orange, qu'il a beaucoup critiqué à l'époque des Cahiers. En revanche, les adaptations de François Truffaut sont plutôt issues du roman noir anglo-saxon, et c'est le cas de Vivement Dimanche, le second film que vous tournez ensemble. Comment vous a-t-il dirigé dans ce film qui, dans le fond et la forme, n'a rien à voir avec La femme d'à côté ? Je crois que Truffaut disait qu'on faisait toujours le film suivant contre le précédent. Là, c'est le cas.
Peut-être quand vous me demandiez comment s'était passée La femme d'à côté, la légèreté, la gaieté. Je me souviens d'un jour, on préparait la scène finale de La femme d'à côté, où le meurtre et le suicide, et qu'il avait vu passer mon ombre sur la pierre de la maison de Bernard, et ça lui a donné envie d'écrire justement les séries noires où il y a un langage cinématographique codé avec les ombres et que
la belle photo de Nestor Almendros,
magnifique,
noir et blanc,
magnifique,
qui donne presque aussi au film, je trouve parfois un aspect cartoonesque,
complètement,
et même dans le rythme, dans l'échange ping-pong des dialogues. Ça m'évoque un petit peu aussi Phantom Lady de Robert Siodmak, qui était à l'origine Phantom Lady, une héroïne de comics. Il y a ça dans votre personnage de secrétaire.
Complètement, et je sais que François disait toujours, il faut jouer vite pour empêcher le spectateur de comprendre qu'il ne comprend pas. Et il avait été revoir le Big Sleep, le Grand Sommeil, où c'était une intrigue très compliquée, mais que le mot d'ordre, c'était comme, vous savez, aller vite, comme du champagne. Donc on se dit, mais alors qui a fait le coup ? Mais c'est pas ça le but. C'est pas un vrai thriller, c'est une comédie.
C'est drôle que vous parliez de The Big Sleep, parce que la musique de Vivement Dimanche, signée Georges Delerue, rappelle un petit peu le côté Enfin, la musique de The Bix.
Fascinant, les... comme ça.
Oui.
Enveloppant.
Warner Brothers, c'est ça. À l'époque de la sortie de Vivement Dimanche, Truffaut disait « La couleur ressemble trop désormais à la vie quotidienne, rythmée par le journal télévisé. Alors je crois que maintenant, on n'obtiendra plus de dépaysement en tournant des films en noir et blanc. » Vous ne trouvez pas que, à force de rétrospectives et hommages très officiels, on a fini par faire de François Truffaut une institution, une référence incontournable au panthéon du cinéma français ? Je ne suis pas sûr que ce quasi-consensus autour de son cinéma, autour de son œuvre, lui rende tellement justice. Est-ce que c'est pas un peu trop dans le rang, cette histoire ?
Mais peu importe, vous n'enlèverez jamais l'envie des gens de faire des hommages, des décorations, des récompenses et des blablas et des récupérations. Peu importe, des films, c'est comme des bouteilles à la mer. Il y aura toujours un jeune Coréen sur sa plage et que les films ne meurent jamais comme les livres. Après, les cérémonies, laissons-les aux cérémonieux.
Il y a un film de François Truffaut que j'aime particulièrement. Enfin, à mon sens, c'est l'un des plus personnels qu'il ait fait. On parlait dans la première partie de cette émission, ou la seconde, je ne sais plus, du culte rendu aux morts. Et je pense à La Chambre verte, qui est un film magnifique.
Magnifique.
Vous l'aimez, vous aussi ?
Beaucoup. Beaucoup.
Et j'ai appris, je ne le savais pas, qu'il avait adapté des nouvelles d'Henry James pour La Chambre verte, et notamment La Bête dans la jungle. Il s'est inspiré de La Bête dans la jungle.
C'était le mélange de L'Hôtel des morts.
Exactement.
Et de La Bête dans la jungle. Il aimait beaucoup, beaucoup Henry James.
Dans La Femme d'à côté, Fanny Ardant, Mathilde dit à Bernard Coudray, joué par Gérard Depardieu, « J'écoute uniquement les chansons parce qu'elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles ne sont pas bêtes, qu'est-ce qu'elles disent ? Ne me quitte pas, ton absence a brisé ma vie, je suis une maison vide sans toi. » En préparant cette émission, j'ai entendu à la radio une chanson de Marie Laforêt et je me suis dit que peut-être elle plairait beaucoup à Mathilde.
Je voudrais tant que tu comprennes, toi que je vais quitter ce soir, que l'on peut avoir de la peine et sembler ne pas en avoir. L'âme est perdue, sauver la face, chanter des larmes plein les yeux et dans un univers de glace donner l'impression d'être heureux. Je voudrais tant que tu comprennes, puisque notre amour va finir, que malgré tout, vois-tu, je t'aime et que j'ai mal à en mourir. Je voudrais tant que tu comprennes, malgré tout ce qui s'est passé, que je t'aimais plus que moi-même et que je ne peux t'oublier. Et que je ne peux t'oublier.
Merci Fanny Ardant. Demain, nous parlerons à nouveau de cinéma. À demain Fanny Ardant.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Fanny Ardant avec Philippe Bresson. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Martin Guénard, réalisation Rafik Zénine, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.